science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velo côtelé.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus et on écoute Science Alors, l'émission scientifique de Radio Campus qui fait dialoguer scientifiques de tous horizons. Alors aujourd'hui, le thème est la science de l'autre.
Jean-Étienne, chercheur en histoire. La pluridisciplinarité, un vœu pieux, plus difficilement applicable.
Je m'appelle Antoine et je suis doctorant en sciences économiques, en économie du développement. La pluridisciplinarité, alors je pense que la science économique utilise un certain nombre d'outils qui lui permettent, entre guillemets, d'envahir un certain nombre d'autres sciences, sciences sociales, mais sciences sociales comme la psychologie, la criminalité, les sciences politiques. Et donc je pense que le mot pluridisciplinarité a du sens en économie.
Donc, je m'appelle Julien, je suis doctorant en mécanique et je travaille sur des modèles de comportement de matériaux. Ce serait l'aboutissement d'un modèle numérique bien construit où on arrive à lier des éléments comme des efforts, la température. On arrive à lier plusieurs phénomènes physiques dans le même modèle et on arrive à les faire fonctionner ensemble. Et donc pour ça, on a besoin de gens qui travaillent dans des domaines très variés.
Eh bien, mon objectif actuel, je dirais que c'est terminer ma thèse.
Et un objectif, ben, ça va être d'expliquer un certain mécanisme économique ou social, de faire l'hypothèse d'un certain mécanisme et de démontrer ce mécanisme et par la suite de le publier si possible.
Mon objectif à l'heure actuelle, oui, pour ma thèse, ce serait d'arriver à avoir un modèle sans aucune erreur. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à dérouler.
Je dirais qu'un collègue, ce n'est jamais tout à fait un égal.
Un collègue, ça peut être un co-auteur, mais aussi un concurrent.
Un collègue, c'est le palliatif indispensable pour arriver à finir une thèse. C'est-à-dire, les collègues, c'est ceux qui nous permettent de rester sain d'esprit et de nous faire gagner du temps quand on s'embourbe dans les difficultés.
Lors de son discours du 21 mai 2013, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, a présenté l'agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l'innovation. À cette occasion, la ministre a rappelé l'intérêt croissant porté à la recherche pluridisciplinaire en indiquant que cette approche est la seule capable de permettre l'élaboration de nouveaux concepts et de ruptures technologiques permettant de relever ces défis. Les directives européennes en termes d'orientation de la recherche appuient dans la même direction en soulignant la nécessité de projets ambitieux aux interfaces entre les différentes disciplines. Au fil de cette émission, nous chercherons donc à comprendre ce que signifient ces pratiques au quotidien pour les scientifiques de toutes disciplines. Comment naissent de telles activités de recherche? Quelles sont les difficultés naturelles rencontrées? Comment les scientifiques y pallient-ils? Mais aussi, comment fait-on pour valoriser et communiquer autour de telles activités? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui dans les studios Vincent Barra, professeur des universités en informatique et directeur de l'école d'ingénieurs ISIMA. Bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi qu'une partie de l'équipe de communication et solidarité de l'UFR Langues Appliquées, représentée par Olivia Salmon Monviola, maître de conférence en civilisation espagnole, Dana Martin, maître de conférence en études germaniques, et Sébastien Rouquette, professeur des universités en communication et directeur de l'équipe de communication et solidarité.
Bonsoir.
Science alors ! Éprouvette et velours côtelé.
Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à venir discuter avec nous sur ces sujets-là. La première question, alors on va s'intéresser justement à cette question de la recherche pluridisciplinaire et de se poser la question, comment est-ce que ça naît, comment est-ce que ça émerge? Est-ce que chacun déjà, dans votre quotidien, vous pratiquez la recherche pluridisciplinaire? Vincent Barra.
Oui, alors pour ce qui me concerne, c'est une activité que je pratique depuis que j'ai fait ma thèse. Hein, ça fait une petite vingtaine d'années, puisque j'ai fait ma thèse dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc déjà à l'interface entre plusieurs disciplines. Hein, moi, je suis issu des mathématiques appliquées. Donc c'est une culture que j'ai toujours souhaité développer. On pourra en rediscuter pour diverses raisons, hein, pour des raisons scientifiques, pour des raisons culturelles. Et puis, depuis, j'ai pu tisser pas mal de liens avec diverses autres composantes, domaines qui vont de la physique, qui vont de la biologie, qui vont des sciences humaines également, aux maths appliquées, qui sont mon domaine de rattachement.
Sébastien Roquette, vous ?
Alors, en ce qui me concerne, il y a pluridisciplinarité, interdisciplinarité, puis il y a au moins deux types d'interdisciplinarité. À vrai dire, je n'ai jamais été pluridisciplinaire au sens où, quand je considère la pluridisciplinarité, c'est des disciplines qui vont travailler conjointement sur des problèmes, sur une thématique, et qui vont chacun y travailler de leur façon. Et au fond, je fais ma thèse en communication. La communication, c'est une discipline récente, comme le STAPS, par exemple. Ça fait partie de ces disciplines qui, d'emblée, se sont construites comme des interdisciplines. La différence entre les deux, c'est que sur un sujet, quand je faisais ma thèse, alors moi, c'était sur, je vais faire comme Vincent, à l'époque, c'était sur la sociologie de la télévision, l'analyse des débats télévisés. Je l'ai construit de manière interdisciplinaire, au sens où, pour ce sujet-là, j'ai utilisé des outils et des réflexions, des problématiques en sémiologie, l'analyse des signes, en sociologie, les enjeux sociaux des débats télévisés, d'analyse de discours, ou encore de sociologie des professions, sociologie des associations. Bref, c'était une thèse interdisciplinaire au sens où, au sein d'une seule discipline, il était autorisé, voire il était légitime de prendre des outils, des concepts et des problématiques pour s'approprier son objet et pour apporter un regard communicationnel. Il y a une autre forme d'interdisciplinarité dont je voulais parler, qui est une autre étape, depuis que je suis fait partie de l'UFR LAC.
C'était plus tard,
mais c'est une interdisciplinarité qui est au-delà de celle-là, puisque là, c'est LAC, ça veut dire langue appliquée, commerce, communication. Et dans ce cas-là, il s'agit de travailler avec des collègues d'autres disciplines. Et alors là, c'est une autre forme d'interdisciplinarité où il s'agit de travailler sur le même objet, mais il ne peut pas y avoir d'interdisciplinarité avec une seule discipline. C'est forcément un travail conjoint, plus intégré que la pluridisciplinarité sur un même objet.
Alors du coup, tous les deux, vous avez évoqué votre thèse, votre sujet de thèse, comme peut-être l'amorce de cette recherche. Est-ce que c'était dans la définition même de votre sujet de thèse, ou alors c'est votre motivation personnelle qui a fait que ça a été dans ce sens-là ?
Disons que quand on sort d'un cursus mathématique et qu'on on intègre une thèse en imagerie médicale, forcément, de fait, la pluridisciplinarité, elle intervient de facto. Après, c'est une question, je pense, d'envie, c'est une question de culture, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va naturellement s'attacher à connaître d'autres disciplines, voir comment on peut interagir avec elles, et puis essayer à la fois d'alimenter ses propres problèmes, de vrais problèmes concrets, et puis de proposer des solutions un peu originales, innovantes, par rapport au domaine qu'on va considérer, nous, comme domaine d'application.
Dana Martin, peut-être ?
Bien, alors pour moi, l'interdisciplinarité se conjugue déjà à partir de mes origines. Je suis allemande, donc j'ai fait mes études en Allemagne et en France aussi. En Allemagne, on étudie deux ou trois matières, ce qui donne déjà un éventail un peu plus large. Et par la suite, je me suis spécialisée en études germaniques, en civilisation. Donc civilisation, intraduisible, sous-discipline qui n'existe pas en Allemagne, premier problème. La civilisation, les civilisationnistes se préoccupent de tout ce qui est recherche mixte par définition, c'est-à-dire histoire, politique, économie, société, culture. Donc on est obligé d'aller piocher à droite à gauche et de se préoccuper d'autres disciplines dès le départ.
Alors ça, vous avez évoqué le fait que vous veniez d'Allemagne et que là-bas, il semble que la pluridisciplinarité soit ancrée dès le cursus d'apprentissage finalement. Est-ce que vous pensez que c'est très français d'avoir cette problème de frontière entre les disciplines ?
Non, pas forcément, parce qu'en LEA, par exemple, nos étudiants choisissent aussi deux langues, anglais, allemand ou une autre langue espagnole, plus des matières appliquées. Donc tout dépend du cursus. La même chose existe en France, peut-être un peu moins systématiquement, mais l'équivalent existe.
Disons que si on pense par exemple à l'organisation des universités anglo-saxonnes, mais en fait, on voit qu'elles ont fait naître des objets de recherche comme l'étude sur le genre, par exemple, parce que justement, en fait, elles ne sont pas cloisonnées par rapport en fonction des matières, mais vous avez différentes disciplines, des historiens, par exemple, hein, ou des sociologues, qui vont travailler sur un même objet, en fait. Donc, est-ce que vous, c'est ce que vous faites dans vos programmes de recherche, est-ce que vous avez décidé, en fait, de réunir des chercheurs de différentes disciplines autour d'un même objet ?
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire à travers de groupes de travail, à travers le choix de nos thématiques. C'est évident qu'à côté de l'interdisciplinarité, le fait d'être ancré dès le départ dans plusieurs disciplines, on a un accès multiple déjà aux objets. L'autre volet très important pour moi, c'est l'interculturalité que je vis au quotidien et qui est également important. C'est-à-dire, on navigue, Olivia, de la même façon, en permanence au quotidien dans deux langues différentes, dans deux pays différents. Via Internet, via médias, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et heureusement. On suit l'actualité, on réfléchit sur des concepts, sur des termes, donc ce sont comme des fenêtres qui s'ouvrent à chaque fois. Chaque discipline est une fenêtre, chaque accès à un pays ou à une zone géographique est une fenêtre. Pour vous donner quelques exemples, si on conceptualise, si on commence à réfléchir sur une thématique comme la mixité ou le lien social ou la veille scientifique, ma discipline, la civilisation, c'est des termes que j'ai notés, il n'y a pas d'équivalent en allemand. Donc je bute sur des mots, déjà pour commencer, qui m'obligent à creuser, à voir plus large, en plus en profondeur, à trouver l'équivalent. On finit toujours par trouver, mais c'est une richesse, une ouverture, une contrainte, par moment, un handicap, voilà, pour faire un tour d'horizon.
Alors là, vous venez de décrire vos problématiques de recherche qui sont plus en sciences humaines. Vincent Barra, vous qui travaillez en sciences dures, j'ai le sentiment qu'il y a moins cette mixité naturelle et c'est plus une démarche de chaque scientifique, je me trompe ou...
Alors disons que c'est un petit peu différent. Enfin, moi, la manière dont je le vois, c'est un peu différent. C'est-à-dire que alors, si on caricature sciences dures et puis sciences humaines ou sciences médicales, ou j'appellerais pas sciences molles pour faire ces personnes.
Pourquoi ces personnes ?
Non, s'il vous plaît. Il y a
deux choses qui font naître la pluridisciplinarité. Vous avez la personne qui vient des sciences dures, elle peut rester dans son domaine, développer ses outils, ses théorèmes, ses méthodes, ou elle peut chercher à se dire, mais finalement, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire ? Et puis essayer de s'ouvrir un petit peu aux autres. À l'inverse, vous avez la personne que je vais appeler l'applicatif, qui vient de la médecine, qui vient de la biologie, qui vient des sciences humaines, qui vient de la géographie, qui se pose un problème et puis qui pourrait très bien rester dans sa sphère, mais qui va chercher, par exemple, à se dire « mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait penser différemment, répondre différemment ?» Et là aussi, il y a une volonté d'ouverture. À partir du moment où il y a ces volontés d'ouverture de chaque côté, c'est de là que naît la rencontre, et puis c'est là que l'un va alimenter l'autre, et puis l'autre va alimenter l'un, et puis généralement, les deux progressent.
Mais si... Eux, de leur côté, les autres invités ici présents ont une équipe de recherche qui est centrée sur cette diversité de cultures. Est-ce que vous, dans les sciences dures, par exemple, prenons l'exemple de Clermont-Ferrand, ça existe ou... Il y a des laboratoires de sciences dures qui croisent plusieurs disciplines ?
On est forcément à l'interface entre plusieurs disciplines. On ne peut pas se revendiquer, être sur une seule discipline pure et dure, sur un noyau très précis, très, très pointu. Ce n'est pas possible. Alors, on est nécessairement soit à l'interface entre plusieurs domaines, soit en marge d'une application et on n'est pas très loin de se servir de cette application comme support.
Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence quand même entre le fait, par exemple, de se nourrir des recherches de disciplines voisines ou sœurs, ce que fait tout scientifique, et le fait de travailler véritablement avec des gens qui viennent d'autres disciplines, c'est-à-dire, par exemple, de produire des recherches conjointes, de faire des publications conjointes. Est-ce que là, il n'y a pas vraiment un gros travail qui est susceptible aussi de désorienter, rien que si on se pose la question, par exemple, comme on l'avait fait dans l'interview, sur qu'est-ce que c'est qu'un objectif, qu'est-ce qu'on recherche, etc., quoi. Est-ce que là, il n'y a pas une petite différence quand même ?
Si, c'est un pari. C'est un pari parce qu'effectivement, notre formation, c'est quoi ? On fait une thèse dans une discipline. Pour être docteur, pour être qualifié, il faut montrer notre compétence disciplinaire. Maîtriser les concepts, maîtriser la méthodologie, maîtriser l'histoire de notre discipline et savoir-faire. L'interdisciplinarité, c'est autre chose. l'interdiscipliné va quelque part, on en parlera peut-être tout à l'heure, même institutionnellement, à l'encontre des disciplines. Donc c'est un pari risqué. C'est un pari risqué institutionnellement, c'est un pari risqué scientifiquement, parce que interdisciplinaire, ça veut dire travailler ensemble, produire ensemble. Donc c'est tout le travail qu'on sait faire. On peut, bien sûr, on peut travailler à plusieurs dans une discipline, mais donc ça veut dire se mettre d'accord sur les concepts, se mettre d'accord sur c'est quoi le problème vraiment important. Gender studies, là, dont vous parliez tout à l'heure, suivant qu'on est sociologue, suivant qu'on est politiste, suivant qu'on est plutôt spécialiste des médias ou de l'écologie, de l'économie, on n'aura a priori pas la même sensibilité à la question fondamentale, la question importante. Donc, la question de la problématique, elle est, c'est déjà un point d'achoppement important. Ensuite, c'est comment va-t-on traiter le sujet ? Même chose, bien sûr qu'on est beaucoup plus aujourd'hui vers la polyvalence méthodologique, encore qu'une méthodologie parfois associée à une épistémologie. Mais même si on part du principe qu'on peut associer des différences méthodologiques, malgré tout, le choix de telle ou telle préférence méthodologique va vouloir éclairer le sujet de telle ou telle façon. Donc, travail de manière interdisciplinaire au sens où ça veut dire qu'on est d'accord pour, non pas simplement travailler ensemble, mais construire ensemble le problème, construire ensemble ce qui est important dans le problème, et produire ensemble des résultats, c'est un pari risqué qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui n'est pas forcément automatiquement reconnu comme ça, en tant que tel, en tout cas par les collègues disciplinaires.
Alors, Olivia, peut-être, vous voulez préciser quelque chose ?
Oui, juste préciser que dans tous les questionnements qu'on a posés dans la mise en place de la revue, et dans ce pari dont parle Sébastien, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et ce pari dont parle Sébastien, on a mis à jour aussi des problématiques d'agencement des résultats de recherche, et ça aussi c'est une difficulté. Comment est-ce que on va mettre en place les résultats ? Comment est-ce qu'on va les faire coïncider les uns avec les autres, les résultats de la recherche ? Ça aussi, ça fait partie des problématiques, des problèmes qu'on soulève.
Concrètement, est-ce que vous pourriez donner un exemple, en fait ? Vous aboutissez à des résultats qui sont différents parce qu'ils sont dans différents langages, parce que...
Eh bien, par exemple, comment agencer des résultats de recherche lorsque nous venons de disciplines différentes ? Pour l'instant, on a vu des résultats de recherche qui se juxtaposent les uns aux autres. Donc se pose la question de savoir ce que l'on fait avec cette juxtaposition. Peut-être qu'on en parlera peut-être avec la revue. Ici, il s'agit pour nous d'arriver à synthétiser nos résultats de recherche à partir de résultats de disciplines différentes.
Et alors, vous venez d'écrire un petit peu le fonctionnement de toutes ces questions-là. Mais alors, ma question initiale, c'était comment ça naît. Alors, ça veut dire que petit à petit, on met au quotidien en place des mécanismes. Est-ce que, par exemple, le fait d'être proche, vous utilisez quoi pratiquement ? Des réunions, vous rencontrez vos collègues, ils vous expliquent les choses
Qu'est-ce qui fait le café ? Ça, c'est important.
Oui, c'est ça. C'est la principale question. Mais Pierre Mathieu qui est à côté, c'est désigné au café et aux photos. Toujours. Et aux blagues.
Ça peut naître de plusieurs manières. Hein. Ça peut naître d'une rencontre parce qu'on va travailler dans des environnements proches et puis un jour, on va discuter autour d'un café ou autre en disant « Tiens, moi, il y a un truc qui m'embête, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'ai peut-être les outils pour t'aider. » Ça peut naître d'une réelle volonté où on va aller chercher l'autre. Ça, c'est sur des choses qui arrivent. Hein. Le ministère lance des projets en ce sens, hein, où on est sur de l'interface, sur du transdisciplinaire. Et puis, je pense qu'avant tout, ça naît de la personne et de la curiosité de la personne à vouloir s'investir dans le pluridisciplinaire.
Dana Martin.
J'adhère complètement. Je pense qu'effectivement, le rôle clé d'une personne moteur, au moins, qui arrive à fédérer du monde ou de plusieurs personnes qui sont réellement motivées est non négligeable. C'est même la condition sine qua non. On peut essayer, tenter de monter les projets s'il n'y a pas au moins un partenaire, voire plusieurs, qui ont la même envie, la même volonté derrière pour construire. C'est beaucoup plus compliqué.
Mais c'est la même chose dans une seule discipline ? C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique au fait d'être en pluridisciplinarité, cette problématique d'une personne moteur sur un projet.
Non, mais par contre, une personne motrice, il faut être un tout petit peu plus que moteur, parce qu'il faut être capable de rapprocher des gens de milieux différents, de rapprocher des gens de disciplines différentes, d'être capable, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, d'engager un dialogue. Alors c'est pas forcément toujours facile, quand vous avez à discuter avec des gens d'horizons très différents, vous avez des vocabulaires différents, vous avez des pratiques différentes, vous avez des exigences qui sont différentes. Tout ça, s'il n'y a pas au moins une personne qui s'investit dedans, qui est suffisamment ouverte, qui est suffisamment réceptive à l'autre, ça ne marchera pas.
Pour cette question, malgré tout, je voulais, à mon avis, il y a les personnes.
Sur cette question.
Ouais, mais il y a aussi le contexte institutionnel. Pour moi, ça joue effectivement un rôle. Alors, c'est le cas de l'UFR LAC, mais c'est aussi le cas de collègues avec qui j'en ai parlé. Le fait de travailler dans une composante, de faire des formations de master, notamment ensemble, donc de travailler régulièrement ensemble. On peut travailler en formation ensemble, mais de travailler de manière parallèle. Et puis, par la force des choses, en l'occurrence dans le laboratoire LAC, c'était aussi l'occasion de faire le larron, en quelque sorte. C'est-à-dire que de discussion en discussion, on est une composante. Bon, voilà, la composante, elle est construite comme ça. C'est historique, on en hérite de ça. Pour autant, on n'est pas obligé d'aller dans l'échelon au-delà, d'essayer de... Et donc, cette condition favorable le permet. Ensuite, je crois que c'est le fait de faire un premier travail et de dire que, après tout, si j'avais travaillé tout seul ou dans ma discipline, je n'aurais pas travaillé de cette façon-là. Donc, il y a, un, le contexte, et deux, des personnes pour qui... Enfin, après, c'est le comportement, c'est-à-dire, il y en a qui... Ça accroche, quoi. Cette façon-là de travailler, sans doute une forme d'ouverture, puisque quand même un aspect positif fort de l'interdisciplinarité, c'est que ça oblige à une ouverture scientifique large. Et bien, on s'y prenne goût et continue.
Mais en fait, est-ce que chacun dans votre domaine, comment est-ce que vous êtes perçu par vos collègues de votre domaine, de votre domaine spécifique ? Est-ce que quand on signe une publication avec des gens de disciplines différentes, on est plutôt déconsidéré, lié dans son propre domaine ? On a fait commis un crime de lèse-majesté. Comment c'est perçu dans votre propre domaine ?
On a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident. Enfin, à quoi ça sert de produire si ça n'a aucune reconnaissance ? Donc après, alors, il y a plusieurs aspects. Effectivement, on ne peut pas atteindre immédiatement une reconnaissance institutionnelle. Quoique, l'ARS prend régulièrement des rapports.
L'ARS
la haute autorité de recherche...
Ceux
qui vous évaluent et qui vous donnent des sous aussi.
Éventuellement sur un projet.
Mais... On parlera juste d'évaluation dans la troisième partie.
Mais l'ARS reconnaît depuis 2012 les projets interdisciplinaires et prêt à les financer plus. Donc, pour dire qu'il y a un progrès. Bon, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Malgré tout, c'est compliqué. Alors concrètement, nous, on a dit on ne peut pas se contenter de faire des papiers à trois disciplines différentes, en civi, en gestion, en communication. Il faut aussi être capable de les proposer dans une discipline, à trois, mais dans une discipline, avoir une reconnaissance, essayer de parallèlement de continuer à jouer la reconnaissance disciplinaire, parce que malgré tout, on reste évalué individuellement par nos disciplines, et pas par... l'interdisciplinarité est mieux vue, mais reste que l'évaluation. Les critères d'évaluation, c'est être publié dans des revues dont la liste, et c'est une liste reconnue par les disciplines. Donc, jouer sur les deux tableaux.
Bien. Alors, on va, avant de poursuivre cette discussion, on va passer à une petite énigme scientifique que va nous donner Jean-Marie.
Alors voilà, l'énigme, elle est très simple. Vous avez devant vous un échiquier de 64 cases habituelles, et puis vous choisissez d'enlever les deux cases opposées, deux coins opposés en fait. Vous enlevez les deux cases, donc il n'en reste plus que 62, d'accord ? Et maintenant, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de placer sur cet échiquier dont il manque deux cases des dominos qui recouvriraient l'ensemble de l'échiquier ? Chaque domino, bien sûr, occupant deux cases de l'échiquier. Vous voyez l'énigme, c'est bon, c'est à peu près enregistré. Donc on a un damier et puis on enlève deux cases et on se pose la question de savoir si on peut le recouvrir de dominos. Alors je vous laisse réfléchir et puis si vous, auditeurs, vous avez une petite idée, je vous invite à appeler le standard de Radio Campus au 04 73 90 52 61. Voilà. N'hésitez pas donc à proposer votre réponse à cette énigme mathématique transcendante.
Oui ! Science alors ! Et velours côtelé.
Ah oui. Alors, on reprend le fil de cette discussion après ce petit intermède scientifique. Tout à l'heure, en fin d'émission, on aura la réponse à cette question, du moins si quelqu'un appelle, ou alors je vous la donnerai. Si on revient à cette question de pluridisciplinarité, On voulait aborder dans cette deuxième partie d'émission une problématique que j'ai l'impression, en discutant avec vous, qui a l'air d'être au centre de cette question. C'est la question du langage et de la capacité de traduire nos disciplines, nos concepts scientifiques à ceux avec qui on va travailler. Alors, est-ce que chacun d'entre vous, vous avez eu ce problème, cette question de traduction? Et puis, la question, comment est-ce qu'on s'y prend pour traduire nos modèles? Est-ce qu'on cache comme une boîte noire les idées? Ou est-ce que dès le début, on essaye de faire rentrer notre interlocuteur dans le cœur de notre discipline? Peut-être Vincent Barra.
Je pense qu'il y a deux choses. Pour bien traiter... Alors moi, je parle de mon point de vue quand on va traiter un problème pluridisciplinaire. Alors prenons un exemple avec un biologiste, par exemple. Pour bien traiter ce problème, il faut comprendre les données qu'on a, il faut comprendre le problème biologique qu'il y a derrière. Donc, pour moi, ne pas comprendre un minimum de choses sur la problématique réelle qui a été posée, c'est partir sur un échec. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à traiter correctement le problème, quels que soient vos outils, quelles que soient vos méthodes, quel que soit votre bagage, si derrière vous ne comprenez pas l'enjeu biologique, l'enjeu et les problématiques. Alors après, comment vous communiquez avec l'autre? Alors, c'est sûr qu'il n'est pas facile, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout de votre discipline en face de vous, de lui expliquer, ma méthode va marcher comme ça, tu vois, je vais régler ce paramètre comme ça, et puis je vais faire... Ça, ce n'est pas gérable. Il faut avoir, et ça, c'est un des exercices qui est, à mon avis, relativement prépondérant dans ces domaines de pluridisciplinarité, c'est une bonne capacité de vulgarisation. Il faut être capable d'expliquer avec des mots simples, avec des concepts, avec des images, dans un premier temps. Après, ça peut évoluer au fur et à mesure de la compréhension du problème, mais il faut être capable d'expliquer le problème, il faut être capable d'expliquer la méthode avec des outils qui restent simples. Et ça fait partie, encore une fois, de nos missions de vulgariser, pas seulement dans le cadre de notre recherche, mais dans le cadre de, parfois de notre enseignement, dans le cadre de nos actions de vulgarisation. On participe tous plus ou moins à des actions de vulgarisation à travers des associations, à travers des missions qu'on va faire dans les lycées, les collèges ou autres. Donc voilà, pour moi, la vulgarisation, c'est un outil qui permet de communiquer.
Alors vous, Dana Martin, vous parliez de la traduction d'une langue à l'autre, mais alors comment est-ce que vous abordez ce problème de la traduction donc du concept d'une discipline à l'autre?
Ça fonctionne un peu de la même manière. Et je pense que c'est même un avantage d'avoir cette habitude au quotidien de jongler entre deux moitiés de cerveau, parce qu'on est obligé à chaque fois qu'on bute de chercher la solution, de chercher la sortie. Donc on est d'entrée dans une conception double, pas forcément binaire, mais on a l'habitude de jongler, pour simplifier. Donc la même chose avec les disciplines. Si je travaille sur l'identité ou comment on le fait collectivement sur le bonheur, évidemment, je me rends compte, sans chercher trop longtemps, que des chercheurs philosophes, psychologues, sociologues travaillent sur cette thématique, mais du côté des sciences exactes aussi, la biologie, la neurologie. Et la même chose existe entre médecins, philosophes, pour la recherche du cancer. Donc il y a des coopérations entre disciplines très, 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 très éloignées qui sont entièrement basées sur cette capacité de traduire, de se faire comprendre, d'arriver à communiquer sa perception des choses, son concept et dans l'objectif, que ce soit donnant-donnant, de comprendre aussi ce que dit l'autre.
Mais est-ce que vous avez des exemples de concepts? Alors là, vous parliez du bonheur, par exemple, ou de l'identité, de concepts, en fait, qui appartiennent à des disciplines, à des sciences sociales, voilà, et aussi à des sciences dites dures, pour simplifier, et qui n'ont pas le même sens. Est-ce que vous êtes confronté dans votre laboratoire à ce problème? Alors, Sébastien Rouquette.
Oui, mais alors... C'est évidemment un problème épineux, parce que dans un SHS, derrière un mot, il y a souvent des théories. Un même mot, le mot individu, le mot société, va être connoté de manière différente par plusieurs formes de sociologie, par exemple. Sociologie, enfin, ce que vous voulez, pragmatique, individualiste, etc. Donc c'est forcément tyraminé, un SHS. Un mot, on ne peut pas simplement traduire, parce que derrière, c'est tout un courant théorique. Pour le moment, on a évité de poser des sujets qui nous imbriquent trop loin là-dedans, mais inévitablement, ça viendra. Je pense qu'il faut faire ça par étapes. Le bonheur, C'est un sujet qui pose des problèmes conceptuels, mais pas forcément aussi. Mais c'est pas un sujet qui, sur le plan conceptuel, a été source d'autant de conflits intellectuels que le mot société ou que le mot individu. Où là, c'est un terrain beaucoup plus difficile. Donc, fonctionner par étapes.
Alors, vous venez de raconter un petit peu comment on était capable de commencer à échanger. Est-ce que si on n'a pas de collègues en face de soi? Et si, par contre, en profitant d'Internet, Internet offre aujourd'hui la possibilité d'avoir accès aux publications de quasiment tous les domaines scientifiques, est-ce qu'une des manières d'aborder la recherche pluridisciplinaire, ce ne serait pas d'abord de, par exemple, prendre un article dans une discipline qui nous intéresse, parce qu'on a besoin des outils qui sont là, mais on n'a pas le scientifique, commencer à lire et se les approprier? Est-ce que c'est imaginable, ou alors est-ce qu'il faut nécessairement passer par un collègue de cette discipline pour faire ce travail de vulgarisation dont vous parliez à Vincent Barat tout à l'heure? Est-ce qu'on peut le faire soi-même, ce cheminement?
La pluridisciplinarité, pour moi, concrètement, c'est un acte de colloque. On peut mettre des choux et des carottes, hein. mais ça reste du parallèle. L'interdisciplinaire, il faut travailler avec quelqu'un et accepter de travailler ensemble. Donc on ne peut pas le faire à distance, ça. Je crois pas.
On ne peut pas le faire à distance et on ne peut pas le faire tout seul non plus. Ça me paraît pas envisageable.
Vous avez parlé de distance, ça veut dire que vous pensez vraiment que si on veut travailler à l'interface entre deux disciplines, il faut être sur le même site géographique ou alors se rencontrer très fréquemment? C'est inimaginable de... Par exemple, je prends un exemple, vous êtes en sciences appliquées, vous travaillez en mathématiques appliquées, vous travaillez en mathématiques appliquées avec quelqu'un qui est loin de vous, c'est pas gênant. Par contre, dès lors qu'on change de discipline, là, la barrière géographique devient...
D'une manière générale, c'est toujours mieux de travailler, au moins de se rencontrer avec les gens avec qui on fait des choses. De rester dans le virtuel, c'est gentil, mais il y a un moment, à défaut de contact, c'est bien d'avoir les gens en face de soi, parce que échanger des résultats, attendre un retour, les écrits sont souvent ambigus. L'interaction, personne à personne, elle permet beaucoup plus de choses. Donc, à mon avis, c'est pas juste dans le domaine de la pluridisciplinarité où il faut travailler avec des gens près de soi. C'est d'une manière générale. On ne peut pas travailler en virtuel avec des gens sans partager de manière efficace, sans partager de manière directe, interactive, instantanée, réactive, ses travaux et ses problèmes.
Daniel Martin ?
Je pense que tout se joue dans la complémentarité. Il y a plusieurs approches possibles. Le mieux, c'est effectivement d'être proche géographiquement pour démarrer quelque chose ou pour travailler à un rythme plutôt soutenu. Si on veut se rencontrer une fois par semaine ou même tous les mois, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour créer le lien, pour maintenir le contact. Par contre, en complément, on peut tout à fait miser aussi de nos jours sur la construction de réseaux, sur le fait de pouvoir beaucoup plus facilement être en contact avec sa communauté scientifique, disciplinaire ou autre nationale à travers de grandes distances. Et ça, c'est une richesse inouïe qu'on n'avait pas auparavant. Donc, dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup de courants qui émergent, on joue sur cette complémentarité et c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Ça, le réseau ne va pas empêcher d'aller vous intéresser à un problème. Vous savez qu'une des personnes référentes est relativement loin de là où vous êtes. Rien n'empêche d'initier les premiers contacts à distance, de dire que voilà, les échanges peuvent être entrepris, vous avez, vous, des solutions peut-être à apporter à son problème, mais inévitablement, si vous voulez que le projet marche, inévitablement, ça passe par des rencontres et des échanges.
Alors, une dernière petite question. Est-ce que, puisqu'on est sur un petit site géographique par rapport à d'autres universités, vous venez de dire que c'était primordial d'être proche des collègues? Pourtant, on a l'impression, au contraire, enfin, c'est peut-être un regard naïf, mais que puisqu'on est, on n'est pas nombreux ici dans notre communauté, bah du coup, on a facilement tendance à aller vers l'autre. Est-ce que dans une petite ville universitaire, ça favorise ou non la trans et pluridisciplinarité? Ça favorise ou non? C'est pas simple en fait, je sais pas.
Moi, si j'avais, ouais, non, mais moi, je pense que c'est l'avantage c'est le point fort de, on pourrait dire une petite université point faible. Bah, de ce point de vue-là, c'est plutôt un point fort, c'est-à-dire que on est dans une université parisienne, on est quasiment forcément dans des laboratoires monodisciplinaires et on ne travaille qu'avec des gens de sa discipline sur ces thématiques, etc. Alors, si on veut pas travailler tout seul sur les petits sites, en particulier dans les disciplines où on n'est pas très nombreux, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de disciplines où il n'y a pas de grande masse de collègues, eh bien, on a intérêt à se rapprocher, et ce qui implique du coup de faire... Alors après, à quel degré ? On peut rester dans le pluridisciplinaire, on peut essayer l'interdisciplinaire, voire aller au-delà. Mais effectivement, je pense que du coup, dans les petites universités qui sont pluridisciplinaires, on est forcément déjà plus pluridisciplinaire et parfois on peut être plus facilement plus interdisciplinaire.
Alors, on va continuer à écouter les petites interviews qu'on a faites avec notre historien, notre économiste, notre ingénieur en mécanique. Et donc, on est allé leur demander ce que signifiait un certain nombre de concepts d'outils.
Alors, l'outil de l'historien du XXIe siècle, je dirais que c'est l'appareil photo numérique et un ordinateur avec un deuxième écran.
Grosso modo, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux grands types d'outils en économie, des outils plus théoriques et des outils plus empiriques et qui utilisent notamment des techniques relatives à l'économétrie. Donc un outil, ça va être quelque chose qui nous permet d'étayer une hypothèse ou une démonstration.
Un outil, pour moi, c'est un outil numérique qu'on bâtit soi-même et qui nous permet de résoudre nos problèmes.
Un résultat, je dirais que c'est l'aboutissement d'un travail de recherche, c'est-à-dire un essai d'interprétation sur une période passée en fonction de questions que l'historien se pose dans le présent qu'il vit.
Un résultat, ça va être... ce à quoi on aboutit à travers l'interaction de notre hypothèse et de l'outil qui va nous permettre de vérifier notre hypothèse.
Un résultat, c'est une courbe, pour moi, c'est un résultat numérique qui est cohérent avec les données qu'on a en entrée. C'est, un résultat, il peut être vrai ou faux, mais au moins c'est cohérent avec ce qu'on lui a demandé au logiciel qu'on a programmé. Putain, c'est nul.
Alors une preuve en histoire, je dirais que c'est la base avant de commencer à faire l'histoire. La preuve, ça va être essayer d'établir des faits qui se sont passés à travers la confrontation d'un certain nombre de documents en usant d'une critique interne et externe. Et l'histoire commence une fois que les faits sont établis avec l'interprétation que l'on leur donne.
Une preuve, je ne sais pas si on n'emploie pas forcément beaucoup le mot de preuve en sciences économiques, je ne crois pas, mais ça pourrait s'apparenter à... plus ou moins un résultat d'une hypothèse qu'on a préalablement formulée. Et donc on démontre que notre hypothèse a une certaine validité.
Vu que je travaille dans le comportement des matériaux, une preuve, c'est quand on arrive à créer un modèle qui corrobore la réalité. C'est-à-dire qu'on va faire des essais sur une pièce, sur une éprouvette, et on va se rendre compte que le modèle qu'on a créé n'est pas totalement incohérent et qu'on a moins de 10% d'erreur. Ça, c'est une belle preuve. C'est ta mère, la preuve.
Voilà, donc une petite définition croisée de la preuve. Bon, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés, mais en tout cas, ils ont l'air de plutôt bien s'amuser. Alors, est-ce que vous, dans vos laboratoires interdisciplinaires, vous vous livrez à ce genre de petits exercices le matin en arrivant, en demandant, c'est quoi pour toi une preuve ? C'est quoi pour toi un résultat ?
Non.
Ah non. Non, comme ça, ça évite.
Ça ne m'étonne pas du tout.
Donc voilà, Vincent Barra
dit non. Vous prenez le café, c'est ça. Vous prenez le café, vous.
Mais Dana Martin n'a pas l'air d'accord, vous aussi. Donc.
Dans toutes les langues, donc.
Dans toutes les langues, ça prend du temps, peut-être.
Mais c'est tellement plaisant. Plus sérieusement... Le verre à moitié vide ou à moitié rempli, pour nous, entre-temps et à travers d'expériences positives, on apprécie énormément le fait d'être à plusieurs, même à se retrouver entre disciplines proches mais complémentaires. Donc les civilisationnistes hispanophones, anglophones, germanophones ont beaucoup de choses à se dire sur les concepts autour d'un café, etc.
Alors, dans le labo, parce que dans le labo, on a un laboratoire... qui cherche à être interdisciplinaire, donc pas simplement travailler sur une thématique commune, le lien social. On fait des présentations, alors en CV, par exemple, on a là Olivia, spécialiste de la franc-maçonnerie, qui va travailler avec des collègues en communication, sur par exemple le non-verbal. Bon, donc elle va travailler ensemble de manière interdisciplinaire. Et après, elles vont présenter leurs résultats, enfin en tout cas la façon dont elles travaillent, à toute une équipe. Ça veut dire qu'elles vont présenter leur façon de travailler à des gens qui sont plutôt spécialistes parfois de religion, de communication aux médias, de communication à l'espace public ou des gens spécialistes de gestion. Et donc, confrontés à ces publics qui ne sont pas de leur discipline, mais qui acceptent de travailler sur le même sujet, la question de la preuve, à quel niveau, jusqu'où on peut aller dans l'explicitation de n'importe quel sujet, de par exemple... l'importance du non-verbal dans, du geste dans la communication, par exemple, il y aura forcément des discussions sur c'est quoi, enfin, quel est le degré de précision qu'on peut avoir sur ce sujet. Oui, donc la question de la preuve, du coup, elle est abordée, même presque de manière, presque, on pourrait dire, extérieure. C'est-à-dire qu'on ne on se rend pas compte à quel point on n'a pas les mêmes logiques de fonctionnement, les mêmes références, tant qu'on n'est pas confronté à des gens d'autres champs disciplinaires que le sien.
Alors Sébastien Roquel, vous venez à l'instant d'expliquer, d'écrire une situation où il y avait de la communication entre collègues, ce qui m'amène naturellement au point que j'aurais aimé aborder maintenant. En fait, c'est cette question de publication et de valorisation de cette recherche inter- et pluridisciplinaire. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, la manière dont on est évalué en recherche, c'est principalement dans sa spécialité fondamentale. Et il manque d'un moyen de reconnaître les recherches aux interfaces. Comment est-ce que vous imaginez les choses? Comment est-ce que vous travaillez, vous, respectivement, quand vous travaillez en... Comment est-ce que vous valorisez? Comment est-ce que vous diffusez les idées que vous faites émerger aux frontières entre différentes disciplines?
Pour moi, il y a deux valorisations possibles. Le premier, c'est répondre aux appels d'offres. On gagne un appel d'offres en disant « on l'a gagné parce qu'on est interdisciplinaire ». Bon. Et ce que je disais tout à l'heure, on aura peut-être de plus en plus de possibilités de le faire. La seconde façon, c'est pour le moment en tout cas, il faut continuer, même si on fait un travail à plusieurs, à publier dans des revues reconnues par notre discipline. On n'y coupe pas. Donc il n'y a pas de solution en l'occurrence.
Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez le scientifique de l'autre discipline à venir raconter avec vous, avec votre langage? Ou alors vous utilisez son langage en partie? Comment ça fonctionne?
Si on fait un article à 3, un CV, en gestion, en communication, si on le présente à une revue de com, c'est le communicant, communicologue, comme vous voulez, qui va se coller à traduire l'article dans une acception qui sera acceptée par son champ, parce qu'il connaît les implicites de son champ. Et puis le gestionnaire pourra faire le même travail de traduction pour une revue de son champ.
Et Vincent Barra, vous avez à peu près les mêmes mécanismes dans vos disciplines?
Alors, nous, on a la chance, dans certains domaines, d'avoir des revues qui arrivent à émarger sur deux disciplines, le numérique et le médical, par exemple. Il y a une très bonne revue dont on sait qu'elle peut être reconnue sur les deux disciplines. Donc, par contre, ça reste à la marge, mais on sait qu'il y a des bonnes revues qui permettent de le faire. Maintenant, comment on valorise un travail pluridisciplinaire? Si on est en mesure d'apporter des contributions méthodologiques en plus de la résolution du problème applicatif, on est capable de valoriser dans son champ disciplinaire. Si on est capable de résoudre le problème applicatif, on va valoriser dans le champ applicatif. Voilà.
Alors, ce que vous venez de décrire, c'est quelque chose aussi dont on a un peu discuté en préparant cette émission. On a la sensation qu'il y a une autre manière de faire de la recherche aux interfaces, et ce serait d'amener des outils à une discipline, et puis d'utiliser ces outils pour résoudre les problématiques de la discipline, mais sans qu'il y ait de retour. Ça reviendrait presque à proposer ses services, entre guillemets, être l'outil d'une autre discipline. Est-ce que ça existe comme mécanisme? Est-ce qu'on peut le considérer comme de la recherche, ou est-ce que...
On est à la limite du... Enfin, c'est pas très satisfaisant d'un point de vue... On fait pas de la prestation de service, quoi.
Là, en l'occurrence, c'est de la prestation.
On fait pas de la prestation de service. On peut résoudre des problèmes en donnant des outils, en donnant des boîtes à outils. Et puis, d'un point de vue applicatif, ça peut donner des très bons résultats. D'un point de vue, personnel... C'est pas très valorisant, quoi.
Et même, je pense que pour que le travail soit interdisciplinaire, il faut que on peut pas être dans la réponse à un problème circonscrit. Il faut que dès en amont, c'est en tout cas dans le laboratoire et dans la revue en particulier, on essaye de fonctionner comme ça. Le problème se construit ensemble dès le départ, dès le début du sujet. Alors il se trouve qu'on a fait aussi on a discuté avec des collègues suisses. Alors eux, ils font une autre définition de l'interdisciplinarité, mais ce mécanisme, il est le même. C'est-à-dire que la construction du problème, il est ensemble, et que non seulement il est ensemble, mais puis il y a un retour. On cherche à voir comment les autres comprennent le problème tel qu'on le pose, donc une interaction, et on n'est pas satisfait tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les termes du problème. Donc il ne peut pas y avoir d'interdisciplinarité si on ne part pas dès le début du travail.
Léna Martin.
Et je pense qu'il faut aussi distinguer, être honnête et distinguer la théorie, l'idéal et la pratique, les réalités qui peuvent parfois présenter des obstacles, des freins de toutes sortes. C'est-à-dire, dans l'idéal, évidemment, on est peut-être, en tant que civilisationniste, plus ou moins porté vers telle ou telle discipline, les historiens pour nous, les politologues. Et en théorie, on est censé avoir le même niveau, c'est-à-dire élargir, travailler dans la largeur et dans la profondeur. Mais en pratique, souvent, on se retrouve quand même dans la situation du petit frère, c'est-à-dire on s'adapte, on fait des efforts pour adopter les mêmes méthodes, mais on n'a pas toujours au final la même reconnaissance et on n'est pas opérationnel peut-être au même niveau. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible. Mmh.
Alors, en fait, vous parliez de revues, hein, justement, et il me semble que en fait, les revues, je connais des revues ouais, qui sont vraiment nées, justement, sur un projet pluridisciplinaire parce que les laboratoires étaient cloisonnés. Alors, est-ce que vous, justement, vous avez choisi ce moyen, ce lieu, finalement, hein, pour mettre en œuvre ce projet pluridisciplinarité,
pluridisciplinaire, pardon. Tout à fait. La revue, elle est le fruit d'une constellation précise, pas du hasard complètement, parce qu'il y a une motivation et une volonté derrière pour mettre en place, pour faire avancer. Mais au départ, les disciplines du laboratoire communication et solidarité ont été présentes au rendez-vous, donc on maintient, on continue, mais c'est une constellation qui était la situation de départ, dont on fait quelque chose.
Alors,
je dirais même que ça va un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a aussi réfléchi, quand on se demande comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, on a réfléchi également à l'idée de est-ce qu'on ne pourrait pas construire un outil. Alors, bon, ce n'est pas forcément le meilleur terme quand on parle de la revue, mais donc cette revue, elle est aussi née de la volonté de trouver un moyen, une plateforme, un endroit où on va pouvoir travailler ensemble de manière pluri- et transdisciplinaire.
Vous pouvez peut-être dire son nom et puis en parler un petit peu, parce que les auditeurs ne la connaissent pas.
Alors, la revue s'appelle Kairos. C'est une revue avec donc une démarche spécifique qui est la démarche transdisciplinaire. C'est une revue électronique. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Oui, donc c'est une revue qui associe trois disciplines, les sciences de l'information et de la communication, les sciences de gestion et les civilisations étrangères.
Léna Martin.
Donc ces trois disciplines déjà impliquent des méthodes et des approches différentes qu'on voudrait complémentaires et qui sont bien, bien spécifiques aussi à la situation qui est notre situation de départ, c'est-à-dire en France. On a dans les SHS aussi les sciences politiques, l'économie ou la gestion, la sociologie. En Allemagne ou dans les pays anglophones, c'est beaucoup moins le cas. Donc, pour une fois, je pense que là, on joue sur un atout sur le plan international. On peut combiner des choses que d'autres revues électroniques ne peuvent pas aussi facilement combiner. Les thèmes et les sujets... Bah, le bonheur, on l'a déjà cité. Le deuxième sujet sera l'open data, c'est-à-dire l'accès aux sources numériques, numérisées, à travers une comparaison entre plusieurs pays, par exemple. Donc il y a à chaque fois des manifestations, des colloques, des initiatives qui se préparent en parallèle.
On a d'autres idées, comme travailler sur le secret, des sujets comme ça. Pour préciser une chose, sur le tabou, oui, donc le sacré, le tabou. Comment chaque numéro se construit ? On impose l'idée que chaque numéro est coordonné par deux ou trois personnes des trois disciplines. Voilà, chaque numéro est coordonné par un civilisationniste, un gestionnaire, un communicant, qui vont construire ensemble la problématique. L'appel est envoyé dans tous les champs, en fait, dans les trois au moins espaces scientifiques. Et on essaie de faire en sorte que... alors, bien sûr, chacun peut être de sa façon particulière, mais à la fin, les coordonnateurs du numéro essaient de répondre de manière le plus interdisciplinaire possible à la question posée initialement.
Pour finir cette émission, j'ai envie de poser à Vincent Barra la question. Est-ce que vous imagineriez, dans vos domaines de compétences, le même type de publication, de revue, qui serait vraiment à la croisée entre trois disciplines et qui s'afficherait comme telle? Vous avez évoqué celles qui ont combiné deux. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire émerger le même genre de publication, ou est-ce que c'est trop tôt, par exemple, dans les sciences dures?
C'est dur comme question, ça.
C'est pour la fin, il en faut toujours une dure à la fin.
Alors là, comme ça, à chaud, j'en sais rien.
C'est peut-être pas trop tôt la bonne réponse, hein. C'est peut-être pas...
Ça doit pouvoir se trouver, simplement, faut pas que ça soit forcé, quoi. Voilà.
Donc en fait, il faudrait imaginer un laboratoire de sciences dures qui croiserait des gens vraiment concrètement, comme les gens ici sur le plateau vivent les choses.
Oui, enfin, ils existent, ces labos. Ils existent. Dans mon labo, on va trouver des gens qui sont très matheux, on va trouver des gens qui sont très informaticiens, on va trouver des gens... à l'interface. Alors après, on parle de trois disciplines. Où sont les frontières de ces disciplines? Ça, c'est pas... Voilà, ce sont des choses qui sont pas du tout définies. Vous allez pouvoir vous trouver dans le domaine de l'informatique, puisque mon labo, c'est avant tout un labo d'informatique, hein, même si... Bon, bref. L'informatique, ça regroupe énormément de disciplines. Vous allez trouver des gens qui vont faire, je ne sais pas moi, du réseau. Vous allez trouver des gens qui vont faire des bases de données. Vous allez trouver des gens qui vont faire de la recherche opérationnelle. Vous avez des gens qui vont faire ce qu'on va appeler des maths infos. Bah, ces gens-là, ils appartiennent d'un point de vue institutionnel à la même section universitaire et ils ne se comprennent pas. Donc où est la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité? Est-ce qu'on se met une étiquette sur le dos et puis on s'y conforme? Voilà, il y a différents niveaux de granularité.
Ça dépend du regard, d'où on regarde, en fait, peut-être.
Ça dépend d'où on regarde, ça dépend vers quoi on a envie de se tourner, ça dépend aussi de la largeur du champ d'application, ça dépend de la largeur de la discipline, ça dépend de tellement de choses.
Dama, pour le mot de la fin.
Oui, parfois, ils ne se comprennent pas, mais parfois, ils se comprennent parfaitement, voire de mieux en mieux avec le temps. Les linguistes, les informaticiens, autour de construction de corpus, il y a des choses merveilleuses qu'on observe au quotidien, et c'est un mot de la fin positif.
Merci.
Μοιάζει να είναι ο καιρός. Γίνομαι ένα μόνος, γίνομαι κύκλος και ανοίγομαι. Μεγαλώνει κι ο Θεός. Έρχονται οι μέρες και περνάνε, δανεικά ζητάνε. Κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες, απόψε κάνε. Λόγια κλειδωμένα ανοίξε. Έρχονται οι μέρες
μέρες και περνάνε δανεικά ζητάνε. Κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες απόψε κάνε. Λόγια κλειδωμένα άνοιξε.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Science Alors, l'émission scientifique de Radio Campus Clermont-Ferrand qui croise le regard des sciences dures et des sciences humaines. Pour cette fin d'émission, eh bien, j'avais envie de répondre à l'énigme. Est-ce que Laurent, quelqu'un a appelé parmi les auditeurs ?
Non, personne n'a appelé ce soir.
Mince, je rappelle quand même l'énigme et peut-être quelqu'un sur le plateau pourra donner la réponse. Alors l'énigme est la suivante, j'ai un échiquier de 64 cases, et eh bien j'enlève deux cases opposées, donc une case à chaque coin, j'obtiens donc 62 cases, et la question est la suivante, peut-on recouvrir cet échiquier avec des dominos et pour qu'il couvre l'ensemble de l'échiquier. Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table a la réponse à cette question ? Est-ce que oui ou non, c'est possible ? Le silence. Alors, je vais donner la réponse. Alors, dans ce cas-là, peut-être Vincent ?
Non, je vais tricher parce que tu me l'as dit la réponse tout à l'heure.
La réponse est non, bien sûr, on ne peut pas. Alors, je vous explique pourquoi. Quand on a un échiquier de 64 cases et puis qu'on enlève deux cases opposées au coin, eh bien, on enlève finalement deux blanches ou alors deux noires si on prend l'échiquier dans l'autre sens. Si on enlève deux cases blanches, eh bien, il ne reste plus que 30 cases blanches contre 32 cases noires. Or, eh bien, chaque domino devra à la fois recouvrir une case blanche et une case noire. C'est la configuration de base. Donc, naturellement, on ne peut pas recouvrir l'ensemble de l'échiquier avec uniquement des dominos.
C'était alors là, donc impressionnant, impressionnant.
C'est ludique, n'est-ce pas ?
Bon, alors Jean-Marie, tu vas peut-être nous parler un peu de ce qu'on pourra faire au niveau scientifique ou ce qu'on pourra entendre à Clermont, même si l'année universitaire touche à sa fin.
Tout à fait. Alors justement, en parlant de ça, est parfait. Le calendrier, l'agenda des... Alors cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin que le mois, parce que précédemment, notre émission succédait mois après mois. Alors on donnait l'agenda du mois à venir. Ici, je vais aller un peu plus loin. Je vous invite, par exemple, mardi 25 juin à 20h30, à une conférence de Tony Williams et de Valérie Chassigo, qui se tiendra au musée Lecoq. Le thème, c'est « Deux siècles de protection des oiseaux, quel bilan ?» Donc c'est organisé par la LPO. Et puis, il y a une historienne et chercheur associé au CNRS qui sera là. Un peu plus tard, eh bien, du 1er juillet au 4 juillet 2013, donc cette année, eh bien, il y a une formation sur le thème de ciel et espace qui sera organisée au domaine de la Planche, c'est à l'est de Clermont-Ferrand. C'est une formation qui est mutualisée par AstuSciences. Pourquoi je vous en parle ? Parce que, eh bien, bien sûr, l'événement de l'été, comme tous les ans, c'est la Nuit des Étoiles qui se tiendra du 9 au 11 août. À Clermont-Ferrand, comme d'ailleurs partout dans le monde. C'est assez bien fait. Et je vous invite d'ailleurs à consulter le site de l'Association française d'astronomie. Vous pourrez notamment constater que dans la région de Clermont-Ferrand, vous trouverez à Saint-Bonnet-les-Alliés, à la terrasse du château, eh bien, une soirée consacrée à l'observation des étoiles. Le 13 octobre 2013, ce sera nettement plus tard, ce sera la fête de la science. Le programme sera à venir sur Radio Campus et puis eh bien, ce sera organisé par les deux universités.
Bon, eh bien, nous allons conclure sur cet agenda local. Donc, n'oubliez pas que l'émission est à podcaster. Vous pouvez la podcaster, l'écouter dès demain sur le site internet sciencealors.fr et vous retrouverez donc des références bibliographiques et puis des liens vers la revue de nos invités. Alors, ce soir, nous avions écouté donc Electric Balkan Jazz Club, une musique qui avait été proposée par Jean-Marie. Et évidemment, nous remercions donc nos nombreux invités aujourd'hui sur ce plateau, donc qui ont accepté de braver la chaleur caniculaire du studio, donc Vincent Barra, Olivia Salmon-Monviola, Dana Martin et Sébastien Rouquette. À la réalisation technique, c'était Laurent, comme d'habitude, à l'habillage Alice. Et cette émission donc était présentée par Jean-Marie, Claire et Cécile. Donc c'est la fin de la saison pour cette émission. Et vous nous retrouverez peut-être donc le 15 juillet pour un thème surprise dont nous...
Si jamais on fait une émission bonus, voilà.
Dont nous gardons bien sûr très jalousement le secret. Et restez sur les ondes de Radio Campus puisque c'est Génération Manga qui vient tout de suite.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velours côtelé.